Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Les Éclaireurs. Salut à tous, les éclairages épisode 14, deuxième partie de la rétrospective 2013. Je suis toujours avec Loli, Musica, Randall Fleck, Titour, c'est
bonsoir.
DJ Bambou du Bled, donc Star Paradise Rider.
Salut.
Représente le panda.
J'ai l'impression d'être Laurent Ruquier là, de présenter tout le monde.
Tous tes chroniqueurs.
Ce tour-ci, donc la deuxième partie, cette fois-ci, ça va être à Musica, Loli et moi. Bon, Musica, moi et Loli de bosser. Musica, tu vas nous parler de quoi ?
D'une série.
D'accord, merci.
Merci, Musica.
Alors, Musica, vas-y.
D'une série anglaise, événement Broadchurch et le comeback de deux grands Britanniques.
De grandes stars.
Ouais.
Très bien, moi je vais parler de, allez, j'ose le dire, de No Pain No Gain.
C'est très bon, ça fait peur.
Et je vais parler d'un petit jeu pas terrible qui s'appelle Bioshock Infinite.
Non, Bioshock quoi
hein? Bioshock Infinite Risk of Rain. Alors, et ça va être à l'objet de terminer cette rétrospective avec...
Avec Prisoners, un petit film.
Trop de la
banque. Et puis Steam, encore pour finir, mais une rétrospective de Steam, en fait.
C'est bon, ça.
Encore Steam.
Mais oui, pour finir. Il s'est quand même passé pas mal de choses, il faut le dire.
Très bien. Comme j'ai pas écrit d'intro, je pense qu'on va passer direct au sujet, et ça va être Musica qui commence.
Amateurisme ambiant.
Alors, on va commencer par une série télé. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Broadchurch.
Pas du tout.
Ah, oui,
oh là là.
Je suis l'actualité des séries anglaises,
moi,
mais
oui.
J'ai pas vu passer.
Moi, un petit peu, mais.
Donc,
voilà.
C'est une série britannique, comme toujours, de Chris Chibnall, qui est un scénariste assez connu en Angleterre. Il a écrit notamment des épisodes de Doctor Who. Exemple.
Comme de par hasard.
Bon, des épisodes pas très bons de la saison 7.
Comme de par hasard.
Il avait écrit le 42, qui est, je sais plus le titre français, c'était un épisode de la saison 3, où ils étaient dans un vaisseau spatial, tout et tout. Où il y avait une question avec le soleil, tout ça. Écrit aussi pour Torchwood et Life on Mars. Donc, c'est une série avec David Tennant, Olivia Colman, et qui a d'ailleurs eu un BAFTA, je crois que c'était pour cette série. Il y a aussi David Bradley, Arthur Darville, et en gros, c'est ça. Après, je ne connais pas très bien les autres acteurs. Alors, c'est une série policière en 8 épisodes, et le pitch, c'est dans la petite ville tranquille de Broadchurch, une station balnéaire britannique. Il s'est passé un meurtre, un garçon d'une dizaine d'années est décédé, dans des circonstances un tout petit peu bizarres. Et donc, c'est le petit garçon qui était d'un couple dont le père est, je crois qu'il est plombier, et la mère, une mère au foyer, tout ça.
C'est Mario.
Voilà. Ça va être Ellie qui est... interprétée par Olivia Colman, la commissaire en chef de Broadchurch. Et il va y avoir un flic qui va venir à Broadchurch, qui n'est pas de la ville, qui s'appelle Alec Hardy, donc personnage interprété par David Tennant.
Il joue pas bien, cet acteur.
La ferme. Le fameux
ça,
David
c'est
Tennant.
Fait. Allez, hop là.
Donc, ils vont enquêter autour de ça, et c'est une petite ville, donc tout le monde se connaît, et ça va réveiller certains secrets, certaines choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Ça va foutre un petit peu le bordel. Alors, j'ai trouvé cette série très très bien écrite. Le jeu d'acteur est aussi vraiment très très bon. On est accroché On est accroché, on a vraiment envie de voir la suite à chaque fois, et c'est assez... J'ai plus le mot.
Ça se finit sur des cliffhangers à chaque fois ou
Non, non, pas vraiment. C'est pas
non.
tellement sur des cliffhangers, c'est-à-dire que à chaque fois, il y a toujours un truc qui remet en question, donc t'es jamais sûr. Voilà, c'était ce que je voulais dire. On n'est jamais sûr
D'accord.
de qui c'est. Tu peux.
Ouais, tu te fais des idées sur le
Voilà, et puis
coupable ou
après, au
à la fin de l'épisode,
final,
tu fais ah non, c'est
ah
pas
ouais,
lui.
c'est pas lui, donc c'est peut-être lui. Ah, mais c'est peut-être elle, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est assez. T'as des
D'accord.
personnages qui sont louches et t'en as d'autres qui ont l'air.
Mais c'est parce qu'il pose des questions ou qu'il tranche
Non,
dans
c'est pas
l'épisode?
tellement. C'est en fait, tu vois, c'est pas tellement procédural en fait. C'est pas comme du NCIS ou NCIS, n'importe quoi,
Ouais.
les experts.
Oui, des
Ouais,
experts
voilà,
aussi, hein,
c'est
oui,
pas
tout
du tout
ça.
comme ça. C'est vraiment plus un genre thriller, c'est-à-dire on regarde, on voit comment les événements vont se passer, tout ça, et c'est pas tellement par l'interrogatoire. Au final, t'as assez peu de scènes d'interrogatoire d'ailleurs.
Et ça se finit vraiment, il n'y a pas une deuxième saison et tout
Alors,
ça.
c'est. À la base, c'est une série qui, je pense, devait faire qu'une saison. D'ailleurs,
Ouais, ça devait être une
la
mini-série
fin est
pour toi.
vraiment magistrale. Et il y a une saison 2 qui va être faite pour cette année, enfin 2014.
D'accord.
Je ne sais. Moi, perso, j'ai trouvé la saison 1 tellement bien construite, et tout ça. Et en plus, ça se passe à Broadchurch. La série s'appelle Broadchurch. Je vois pas. Même si c'est dans la ville, je vois pas trop comment on pourrait.
Mais ils vont peut-être faire une
Comment
deuxième
ils vont
histoire,
relancer la saison?
c'est-à-dire?
En plus, c'était tellement particulier tout ça. Même s'il y avait des interrogations qui ont sur notamment Alucard qui est un petit peu bizarre. Il a un passé un peu flou. On ne sait pas très bien parce qu'il avait eu apparemment.
Et peut-être mettre l'objectif sur d'autres personnages, du coup.
Ouais, je sais pas.
C'est une possibilité de retourner la chose, peut-être.
A priori, ça sera avec les mêmes héros.
Je ne sais absolument pas parce qu'il y a très peu d'infos qui a filtré sur la
Très peu
saison
d'infos, ouais.
2 britannique. Et, mais je
D'accord.
pense que mon avis, ce sera surtout centré sur Olivia Colman et David Tennant.
Oula, tu me fais peur quand tu dis saison 2 britannique.
Oui, pourquoi je précise britannique? Parce que il va y avoir un remake américain et français. Il y aura deux
Oh, ah là
remakes
là. Et
et
français.
français.
Là,
Alors,
là, là. Donc le français sera nul à
le
chier.
remake français.
L'américain sera passable. Oh,
Alors, le remake
punaise.
américain, ce sera de la Fox, ça va s'appeler Grace Point. Je ne sais absolument pas où ça. Voilà.
Va se passer à
Ouais,
Grace
ça va être
Point.
sûrement.
A priori, il y a Nick Nolte dans le remake américain, je suis en train de voir.
Oui, et tout à fait.
Nick
Il y a
Nolte.
aussi Anna Gunn
Mais en France, il y aura Emily Mathy.
je ne sais pas comment on dit, de Breaking Bad, qui va sûrement jouer.
Ah!
Je pense qu'elle va jouer la mère éplorée. Parce que. Voilà. Et mais ça sera toujours avec Tennant. Oui,
Ah ouais,
si
la
c'est
France, ouais.
voilà, il va rejouer le rôle qu'il y avait, et ça va être toujours écrit par Chris Chibnall. Après, il y avait donc il y a un remake qui devrait se passer en France. Enfin, je sais pas après. Il
Donc,
y a
ça,
très.
t'as pas des idées d'acteurs et tout?
Il y aura Roger Hanin et Mimi Mathy.
Ouais, ça va se passer à Berck. Mais
Et
il y
Danny
a très peu
Boone.
d'infos qui a filtré. Juste, ils ont dit on va faire un remake de ça, et c'est ok. Maintenant, on vous dit plus rien. C'est comme
D'accord.
donc voilà, il y avait aussi une diffusion française pardon qui était prévue, mais
Sur France
sur
2, a
France 2,
priori,
mais
de ce que j'ai vu.
apparemment plus rien. Pourtant, France 2 a acheté les
Oui,
droits.
ça se fera sans doute
France
pas.
Télévisions a acheté. Ce
Ils en
sera
ont
sur
parlé.
France 4 sinon.
En même temps, ça fait cet été où ils en parlaient, donc.
Ouais, mais apparemment ça n'a pas été
Ils
diffusé.
vont le poster sur France 4 sinon. Ouais.
Ouais. Oui, sûrement, mais
C'est
c'est.
quand même France 4 qui récupère les diffusions des séries de la BBC.
Souvent, ouais.
Ouais, voilà.
Mais tant
Même si
mieux.
après.
Et tant mieux
Bon,
d'ailleurs.
alors moi, je t'avouerai que j'ai commencé le pilote et que j'ai pas tenu. Je suis désolé.
Tu
Ouais.
devrais, parce que c'est vraiment très très
Mais
bien.
je vais peut-être
En
m'accrocher,
plus,
ouais.
la question du deuil est très bien traitée. Avec même aussi des médias, parce que évidemment, c'est un meurtre et les médias vont s'en mêler, et des fois, c'est vraiment pas a priori. Et les réseaux sociaux. Je vais y arriver. Les réseaux sociaux, c'est vraiment très très
D'accord.
bien. Et c'est très intéressant.
Ah, du coup, c'est une série moderne.
Pardon?
Mais
Ça
si.
se passe dans une
Ah
époque
oui, tout à fait,
moderne. Ah oui, c'est
J'avais pas
contemporain,
pigé ça,
Ah non,
excusez-moi.
c'est.
J'avais
Mais
cru
non,
que ça
c'est
se
pas un
passait
truc
genre
religieux.
Non, c'est.
Non, mais non, c'est pas ça. J'étais parti sur genre Angleterre des années
Ah non,
1850, un
c'est
truc
pas
comme ça,
comme
où
Ripper
j'étais parti
Street ou un truc
totalement
comme
dans
ça,
une
ça n'a
mauvaise
rien à
période.
voir. C'est
Non, d'accord, ok.
vraiment
C'est
actuel.
moi qui ai mal compris,
C'est
excusez-moi.
tout ce qui est de plus actuel, etc. Et c'est franchement très très bien. Et donc voilà, je conseille vraiment en tout cas la saison 1. Saison 2, faudra voir. Faudra voir, j'ai un peu peur, mais bon. On va voir.
Eh ben écoute, bah dans ce cas-là, je vais m'empresser d'aller voir.
Je te le reconseille. D'accord. Je te le conseille.
Il y aura
très vivement.
Et donc, tu voulais nous parler du retour de deux mastodontes.
Et voilà, on va toujours rester sur le thème de l'Angleterre.
David et Jonathan.
Les Spice Girls.
Non. Spice Girls. Non, quand même pas.
Mais vous vous rendez compte que tout ce que vous citez, je vais le mettre en fond, là.
Led Zeppelin.
Carrément.
Benny B.
YouTube. C'est juste pour qu'ils mettent du bénéfice en France.
Coolio.
Coolio. Coolio et HT.
Allez, musique, vas-y, vas-y.
Je vais vous parler de musique cette fois, avec le comeback en 2013 de deux géants de la musique britannique. Ils sont messieurs David Bowie et Paul
Jamais
McCartney.
Jamais entendu parler.
Alors, Paul McCartney, je suis pas certain. Est-ce qu'il est mort, Paul McCartney ?
Eh ben, oui. Toi que...
Ils l'ont sorti du chloroforme.
Non, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit
ouais,
qu'il est mort.
Hein.
D'accord.
Et que c'est un sosie de lui.
Tu te trompes de podcast.
Oui, ouais. Oui, mais c'est pas grave.
Alors, et donc, tous les deux ont sorti deux albums. Alors, pour David Bowie, c'est The Next Day. Et pour Paul McCartney, c'est New. Oui, c'est ça, c'est sorti en septembre, je crois, tous les deux. Oui, voilà, peu de choses près. C'est sorti à peu près en même temps. Alors, on va commencer par Monsieur David Bowie. Alors, de son vrai nom, une petite rétrospective. David Robert Jones, qui est né le 8 janvier 1947 à Londres. Donc, plus besoin de trop les présenter. Donc, lui, c'est une star des années 70, 80 surtout. Avec il y avait aussi son alter ego qui était très connu, Ziggy Stardust. C'est ça, le monsieur androgyne tout maquillé. Il a fait donc des albums qui sont assez connus. Moi, je n'écoute pas. J'ai pas eu. Je vais m'y intéresser, mais j'ai pas écouté. Voilà, j'ai pas trop eu le temps et on m'a pas trop fait écouter de David Bowie, mais.
Au niveau de l'expérience musicale, à mon avis, t'as une plus grosse expérience avec David Bowie qu'avec McCartney.
Je suis pas sûre.
Ah non, c'est sûr.
Mais en même temps,
Moi, McCartney, je suis resté sur les
ouais,
Beatles.
Donc, je crois que oui. C'est.
Mais je me suis limité à
ouais,
ça après. N'étant pas très fan des Beatles.
Attention, okay.
Tu te rends compte à qui tu parles là.
Non, mais je sais bien, mais je ne critique pas.
Elle va splitter.
Je dis juste que c'est pas ma dose. Hein. Je dis juste que c'est pas quelque chose. Je ne critique pas.
Mais il faut faire diversion. Là, là, là.
Ça va. Les poneys,
non,
c'est
mais
bien.
Jean Kikin, t'inquiète.
Et les mecs, on va faire du parapente.
Jean Kikin, t'inquiète. Alors, il a fait donc des albums qui sont très très connus, en tout cas, pour le titre. The Man Who Sold the World en 70, Let's Dance de 87, Space Oddity en 69. Alors, celui-là, il est très long, donc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en 72, etc.
Ouais, c'est un album assez expérimental, il faut le savoir.
D'ailleurs, il y avait aussi les très bons Life on Mars et Agis2Agis qui ont inspiré deux magnifiques séries, en tout cas une. Il a été aussi acteur, mais ça c'est de manière plus anecdotique. Donc, dans Furio en 83 et Twin Peaks, le film en 92, par exemple, qu'il faudra absolument que je voie. En 2013, il revient sur le devant de la scène après une dizaine d'années, je crois. Ouais, une dizaine d'années d'absence. Et il fait The Next Day. Alors, c'est le premier David Bowie que j'écoute, et j'ai trouvé ça plutôt très bon. Pour un gars de 60-70 ans, enfin, dans les 70 ans, c'est vraiment très rock. Enfin, c'est assez rock. C'est vintage, c'est bien fait, c'est vraiment...
C'est quand même de Bowie qu'on parle.
Oui, hein. Voilà, mais des fois, tu sais, il y en a, ils reviennent, et en fait, c'est plus aussi bien qu'avant, tout ça.
Alors, regarde McCartney, par exemple.
Toi, la ferme. Alors...
Non, mais Bowie a quand même un antécédent et un bagage musical qui est tellement fourni qu'il était très difficile pour lui, je pense, d'arriver avec les mains dans les poches en disant « Regardez, j'ai fait de la merde. »
Ouais, j'avoue.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça me semble compliqué, hein, honnêtement.
Mais enfin, il a été quand même pas mal critiqué, son dernier album, je crois.
Oui, mais les critiques ont été, dans l'ensemble, plutôt positives. Et toujours des petits sons de cloche. Oui, non, c'est pas si bien que ça, mais en fait...
Et Magic Jack de l'improbable podcast a adoré.
Ah, voilà. Alors, c'est forcément bien.
Un homme de goût, en plus, donc...
C'est pas lui qu'on va contredire. Hein.
C'est pas un album qui innove, c'est même un peu... Ça fait un peu penser à de la... Comment dire, à la période un peu... C'est un peu vintage dans le fond.
N'est-ce pas un retour
aux sources ? Peut-être, oui, mais ça reste quand même...
N'est-ce pas l'album de la maturité ?
Enclume dans ta gueule. Donc...
Ah, bravo !
Très très beau.
Donc, mais dans l'ensemble, il... c'est pas innovant, mais c'est quand même très très bien fait. C'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est tout. Et franchement, je conseille de l'écouter.
Simple et efficace, quoi.
Voilà, exactement. Simple et efficace. Et...
Simple et funky.
Et c'est vraiment à écouter si on veut retrouver les... l'époque 70, tout ça, mais de très bonne qualité. Donc, voilà. Au suivant, Sion. Donc, un monsieur que j'adore. Donc, qui est James Paul McCartney.
Jamais entendu parler de ce
Oh, c'est juste qu'il a été le roi du monde pendant une certaine période, c'est tout.
Je crois qu'il était dans l'ombre de Ringo Starr.
C'est ça.
C'est lui qui a fait un truc avec Bob Dylan.
C'est ça, voilà.
Il commande des jeux vidéo sur Minecraft.
C'est ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, James Paul McCartney, qui est né le 18 juillet 1942 à Liverpool, comme chacun sait.
Sœur.
Donc, qui a été dans l'immense groupe formidable, oui, je le dis, les Beatles.
Les
Beatles, donc là, Monsieur Péremptoire vous fera, vous passera quelques extraits.
Oh, je suis pas fan des Beatles.
En fou, tu passeras les extraits, je t'ai filé. Donc, l'immense groupe des Beatles dans les années 60, puis il a fait The Wings, autre groupe très connu, et... Mais en fait, The Wings, c'était plus ou moins... En fait, c'était des membres qui étaient récurrents, enfin, des musiciens qui étaient récurrents pour ce qu'il faisait, lui. Donc, c'est-à-dire, on voit beaucoup McCartney, mais c'est titré The Wings. Paul McCartney, The Wings, enfin... comme ça. Donc il y a par exemple Ramon de 71, excellent album. McCartney en 70, Venus and Mars en 75. Dans les albums solo, il y a Chaos and Creation in the Backyard en 2005, très 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 bon aussi. Enfin bon, je vous dirais que tous les McCartney sont excellents. Donc voilà.
C'est du parti
ça c'est mon avis.
Voilà. Donc Il était revenu en 2011, si je me souviens bien, pour un album un peu de reprise de musique des années 20. Et en 2013, il refait un album d'inédit, entièrement inédit, ça fait un petit moment. Il ne l'avait plus fait, qui s'appelle New. Et c'est vraiment une méga tuerie. C'est tout. C'est vraiment... C'est du McCartney, c'est-à-dire c'est vraiment les mélodies qui sont travaillées, mais c'est léger, c'est accrocheur, mais en même temps, les paroles sont toujours très bien écrites. C'est en même temps, il y a un peu plus d'électro, c'est un peu plus moderne, tout ça. Il y en a qui diraient que c'est ça ressemble à du Beatles, tout ça. Oui, mais c'est comme il a dit, il peut pas s'empêcher de faire du Beatles, c'est comme ça qu'il a un peu appris, donc c'est normal qu'il refasse un peu du Beatles. Voilà, c'est ça. Et c'est moi je trouve ça très 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 bien. Dès que le premier extrait, première musique New était sortie et que j'ai écouté, je me suis dit mon Dieu, à nouveau McCartney. Et tout l'album, c'est comme ça, j'ai été très très contente et franchement, je suis pas déçue. Pas déçue du tout. C'est vraiment, il vaut vraiment le coup. Donc, même si vous n'aimez pas McCartney, vous pouvez juste jeter une oreille sur quelque chose de culte.
Ouais, moi, j'ai écouté que le titre New, et je trouvais ça un peu trop classique, mais plutôt sympa.
C'est classique, mais je trouve ça aussi très bien fait. Après, franchement, oui. C'est dans la même veine pop, tout ça, mais très coloré, mais
Après, je sais pas, mais ça fait partie, des musiciens, enfin, des musiciens, artistes, compositeurs, enfin, tout ce qu'on veut. Ils sont ancrés dans un style, donc de toute façon, après...
Ah oui, de toute façon, oui, tu vas pas lui demander...
Ouais, enfin, même si, quand tu regardes un peu la carrière de McCartney, même au sein des Beatles, où il y a... Les Beatles, ils ont quand même beaucoup expérimenté.
Ah oui.
C'est
très assez... expérimental, en effet.
Il a quand même essayé certaines choses, par exemple dans un, je crois que c'était dans l'album blanc, t'as un morceau qui était le premier considéré comme le premier morceau métal ou quelque chose comme ça. Après, il a fait quelque chose de beaucoup plus années 80 dans cette période quand il était en solo. Enfin, il a testé beaucoup de choses et franchement.
Il n'avait pas fait un livre de cuisine sur le fenouil aussi? Je me trompe.
Ouais, il me semble. Je crois que tu te trompes.
Ah non, mais les mecs, c'était il y a 2 semaines, ça. Faut vous mettre à la porte.
Excusez-moi.
Très bien. Alors moi, j'irai l'écouter parce que j'ai vu qu'il était produit par Mark Ronson.
Oui, d'ailleurs, c'est ça. Il était produit par Mark Ronson et aussi par le fils du producteur légendaire des Beatles. Aussi.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc, David Tennant, Paul McCartney, David Bowie.
Voilà, c'est ça.
C'est ton 2013.
Oh, oui,
voilà.
So British.
Juste avant de passer à la suite, je me souviens de cette photo de David Bowie en concert en 2004 où un de ses yeux sort de son orbite.
Ah,
ah bon. Il faut savoir qu'il a les yeux verrons, ce garçon.
Il a mangé trop de fenouil.
Bref, vous verrez la photo de David Bowie, il sera peut-être en illustration de podcast. Je sais pas. On verra. Alors, on va passer à la suite et c'est à moi.
Oh, cette musique.
Pourquoi c'est son jingle à lui qui a le plus la classe?
Parce que la musique,
ça c'est une musique
géniale,
pleine d'espoir, tout ça. Et c'est une musique de... Ah oh, putain, je sais pas si j'en parle.
Oui, allez, oui, il faut en parler. Il faut.
De No Pain, No Gain.
Ouais, ouais. Moi, j'ai vu, ouais.
Moi. C'est tout?
C'est tout.
Y a personne d'autre?
Oui.
Attends, là, je suis déçu. Alors, bon...
Parlons du réalisateur.
C'est un film... C'est un film de Michael Bay.
C'est Michael Bay.
Explosion. Cool guys don't look at explosions. They blow
things up and then walk away. Bon, c'est un film de Michael Bay. Alors ça va peut-être vous étonner, à vrai dire ça m'étonne moi-même. Je pensais pas mettre un jour un film de Michael Bay en top
2013,
en top d'une année ou peu importe. Néanmoins, bon, j'insiste pour dire que c'est absolument pas le meilleur film de 2013 pour moi, bien sûr, mais c'est un film qui mérite...
C'est le plus surprenant, peut-être.
Ouais. Rapidement, l'histoire. C'est Daniel Lugo, qui vit à Miami. C'est un coach personnel dans un centre de fitness. Alors, pour lui, c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'entretenir son corps musculeux.
Quitte à prendre n'importe quoi pour le faire, d'ailleurs.
Ouais, mais sa vie lui plaît pas, il veut avoir une meilleure vie, il veut avoir plus d'argent, même si je trouve que j'ai l'impression qu'il gagne assez bien sa vie avec son boulot.
Bon, il a pas un super appart, mais enfin...
Ouais, bah, quand même. Alors, il va préparer un plan pour dépouiller un Victor Kershaw, c'est un millionnaire juif. Ouais, il est joué par Tony Shalhoub.
Tony Shalhoub.
Et donc, il veut le dépouiller. Et pour l'aider, il va y avoir Daniel et... Alors, Daniel va demander l'aide à deux de ses amis, Adrian et Paul, et ensemble, ils vont dérober...
Adrian Paul.
Ils vont dérober toutes les possessions de Victor Kershaw. Mais ça va pas leur
suffire. Tu oublies l'essentiel.
L'un des acteurs...
Qui joue voilà. Paul.
Attends, mais je vais y venir.
Ah.
Meilleur acteur du monde.
Et donc, ça va pas leur suffire, ils vont avoir envie d'avoir plus d'argent.
Et plus de copains.
Et donc, ils vont reproduire leurs opérations à d'autres victimes. Alors, par où commencer? Déjà, bon, je sens que je vais me faire lyncher, mais j'ose. J'ai vraiment bien aimé
ça. Ah, mais moi aussi.
J'ai adoré
ça. Ouais. Ouais.
Et ça me pèse, parce que franchement, Michael Bay et moi, c'est pas
on
vraiment
pas copains.
Le grand amour.
Beaucoup rock, Armageddon.
Oui, justement.
Ouais.
C'est peut-être le moins pire. Remarque, c'est peut-être le moins pire, Armageddon. Deux.
Attends, Rock, 3. C'était
rock,
génial.
C'était bien.
Ah oui, c'est vrai. The Rock, c'était bien.
Et Goodspeed, je vais parler de
la merde. Ouais, je me suis vraiment forcé pour aller voir le film. Je me disais, ouais, super, c'est du Michael Bay, ça va être du
pan-pan,
boum boum, explosion, ouais. Le seigneur qui va tenir sur un post-it. Même si c'est le film vole pas bien haut quand même au niveau du
scénario. Il n'y a pas d'explosion.
Même.
Enfin, peu.
Un petit peu.
Il y a des Transformers.
Au final, je veux dire,
aucun Transformer.
Il y a Megan Fox.
Il n'y a aucune Megan Fox.
Il y a une météorite.
Non.
Non plus.
La chie à le bœuf.
Il y a des Bad Boys.
Oh putain, vous êtes insupportable.
Il y a une île. Il y a des avions.
Au final, je dois dire que en fait, j'étais plutôt surpris dans le bon sens. J'étais même étonné. Au bout d'une demi-heure de film, j'étais vraiment dedans. J'étais presque subjugué.
Il y a un côté hallucinant, en fait.
En fait, j'étais subjugué par la connerie des personnages.
C'est ça.
Ouais. Expérimental et... comme connerie, non?
Un peu.
Ouais,
un peu.
Très, très, très. Et c'est là tout le film, en fait. Tu suis des personnages qui sont vraiment cons, mais vraiment cons comme leurs pieds, quoi. Et plus ça allait, je me disais... Oh ouais, quand même. Oh non, ils vont pas faire ça. Oh non, ça va pas se passer. Non, ils vont se faire avoir, c'est pas possible.
Non, ils vont pas être aussi bêtes.
Le film en lui-même, la réal est assez classique au final.
Mais il y a une lumière assez étrange, qui tout est surexposé. Il y a un côté.
Ouais.
Ouais. T'as l'impression d'être défoncé, quoi.
C'est ça. Voilà. Tu regardes un film sous drogue.
Voilà, c'est ça.
Bon, là, Michael Bay, il est pas dans son délire d'explosion, tout ça, avec des j'en fais des tonnes, avec des super mouvements de caméra, voilà. Super rapides.
Bah, je suis pas d'accord pour les super mouvements de caméra, parce qu'on a quand même souvent le même gros plan.
Ouais, non, mais je veux dire dans le sens où
c'est pas un montage baston, cut à mort, quoi.
Tout, ouais, contre, super c'est vrai, c'est épileptique, quoi. Il y a pas beaucoup de gros effets spéciaux.
Non,
il y en a même pas.
Ah si, il y en a, un. Mais c'est pas un effet spécial.
D'accord.
Oui, l'orteil dans un bocal, un truc comme ça. C'est...
Ah non, je parlais d'un acteur.
Ah oui. Et donc la musique de, il y a la musique de Steve Jablonski qui avait fait les scores de Transformers. Bon, ben, on change pas une équipe qui gagne. Mais l'OST est sympa, mais il y a des morceaux qui sont pas top top, je trouve. Mais bref. Côté acteur, bon, les acteurs.
Les meilleurs. Allez. Les meilleurs de tous.
En fait, je les trouve dans l'ensemble assez bons, sauf Mark Wahlberg qui en fait des tonnes.
Mais ça fait partie du côté. Ça fait du côté.
Ce mec a le charisme du Nandiv, je suis désolé.
Oui, oui bon, d'accord.
Donc... Non, mais c'est son style, il est génial. Donc, Big Hit, je l'ai
mais
adoré.
Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas trop mal. Il y a Tony Shalhoub hein, qui joue le rôle d'Adrien Monk dans.
Donc, qui est un très bon acteur.
D'ailleurs, c'est un peu pour lui que je suis allé voir le film parce que j'adore cet acteur. Et je trouve que c'est bon.
Moi, je suis allé voir pour Mark Wahlberg, tu vois, du coup.
Ah ouais.
J'aime beaucoup Mark Wahlberg.
Moi, j'ai un peu du mal.
Et je trouve que dans ce film-là, en fait, il joue bien.
Oui, parce qu'il joue vraiment le crétin, quoi.
Il s'émerde bien.
Voilà, il incarne très très bien le rôle, en fait.
Ouais. Et il d'un type complètement t'as l'impression qu'il est défoncé tout le temps.
Oui, oui.
Bah attends, dans Ted, il est génial.
Oui, dans Ted, il est bien.
Il y a Ed Harris aussi, mais que j'ai pas trouvé top top. Ed Harris, je trouve
qu'il a un tout petit rôle.
Ça manquait de météorite.
Mais la claque du film. C'est Dwayne Johnson.
Mais ouais.
Il est vraiment surpuissant.
Il est divin dedans.
Et le mec, c'est un ancien catcheur. Hein,
ben
oui.
Ça
mais il catche encore. Toujours. Il est encore ouais, catché l'année dernière. Il était au pay-per-view, tout ça.
Ouais.
Et ben. Ou il y a deux ans, je sais plus.
Au final, je trouve le film vraiment sympa. Mais il y a un petit côté. Bah, il y a la satire du rêve américain. Bon, ça se voit. Hein. Mais c'est un peu gâché parce que des fois, c'est un peu too much. T'as un côté genre empilement de situation.
Mais en même temps, c'est too much.
C'est
mais...
plus en plus folle. C'est une histoire vraie.
Et voilà, donc en fait, pour finir, le film est basé sur une histoire vraie, c'est ça qui est fou. C'est une histoire vraie qui a été relatée dans le Miami News Time, et ça avait lieu entre 94 et 95.
Ouais.
Je me pose quand même la question de savoir jusqu'où ça va pour l'histoire vraie, parce que c'est quand même assez dingue.
D'après ce que j'ai lu, il s'est passé vraiment des trucs de fou aussi dingues. Ouais. Ah, pas tout ce qui s'est passé dans le film, j'imagine, mais des trucs assez dingues et aussi violents que dans le film, quoi.
En fait, j'aimerais savoir si Michael Bay il a juste pioché les grandes lignes de l'histoire ou si c'est vraiment détaillé, vraiment ce qui se passait.
De ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment très fidèle.
Pour toi, je vais spoiler, mais le fait de comment dire, de cuire une main au barbecue.
Oui, ça, je sais pas.
Après, bon, ça je sais pas.
Dans, mais je sais qu'ils ont fait des violences sur le type qui sont de ce
ouais.
Endroit-là, quoi.
Ouais. Ouais. Donc d'ailleurs, il y a un moment dans le film, ça j'avais adoré. Les compères vont encore plus loin dans leur connerie, et il y a un arrêt sur image, et là il y a un titre sur l'écran qui dit, en gros, je vous rappelle que ce qui se passe là, c'est vraiment tiré d'une histoire.
Voilà. Le truc qui te sort du...
T'as ça dans un film.
Le truc qui te sort du film, là, quoi, pour dire que c'est vrai.
Mais oui. Non, mais franchement, très étonnant. Ouais. Et aussi, pour finir, c'est le plus petit film, c'est le film plus petit budget de Michael Bay. Combien, à votre avis ?
Allez, 10 millions.
300 millions ?
300 millions.
Je sais pas, je dis une connerie, moi.
Oui, je crois.
26 millions. Ouais,
10 millions, ah non, c'est quand même plus. C'est 26 millions. Et en fait, il me semble que... Enfin, j'avais entendu ça dans un podcast, les Casteropod. C'est un podcast sur le ciné, c'est très très bien. En fait, bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais il avait reçu une petite enveloppe d'argent de la part de Paramount après avoir fait tous les Transformers, parce que bon, ça avait rapporté un paquet de pognon. Et du coup, il s'est dit, oh, bah, j'avais l'idée qui me trottait en tête, bah, j'allais me faire ce petit film tranquillos. Quoi.
Ça sera pas la petite enveloppe.
Bon, en même temps, il en a fait gagner des sous.
Et en fait, j'avais regardé sur Allociné, et soit les gens ils adorent ou ils aiment, soit ils détestent, mais au plus haut point, quoi. Ouais, c'est fou. Voilà, je pense que vous avez bien aimé, vous.
Ah, moi j'adore.
Moi j'ai adoré, moi. C'est tellement spécial comme expérience.
Je l'ai vraiment regardé, mais complètement par hasard, et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Et j'ai trouvé ça génial. Oui, c'est vrai, j'ai regardé sans avoir rien vu du tout sur ce film.
Je savais même pas que c'était Michael Bay.
Ah, moi je savais.
Alors moi j'ai été le voir en fait après avoir vu le Fossoyeur du cinéma, son après-séance. Ah.
Ouais.
Et il a dit que c'était pour lui le meilleur film de Michael Bay.
Ah bah oui.
Et que c'était certainement un des films les plus surprenants et à voir de l'année 2013.
Ah bah je suis assez d'accord.
C'est ça, je trouve que c'est le plus étonnant, moi, voilà.
Ouais. Pas pour autant en disant que c'est le meilleur film de l'année, mais qu'il classe dans son top 10.
Ah oui, oui.
Largement même.
Largement. Voilà, ça c'était pour No Pain No Gain. Et maintenant...
Et ensuite...
Maintenant, BioShock.
Ouais,
bon, je vais le faire très rapidement parce que je pense que.
Ouais. Mais sinon, on peut aller sur le bidule, il y a plein d'articles dessus. Pom, pom,
pom. On se demande qui est-ce qui les a fait.
Donc, BioShock Infinite, un FPS sorti en mars sur PC, PlayStation 3, Xbox 360 et sur Mac, je crois, je sais plus. Le jeu se passe en 1912 dans une cité volante du nom de Columbia. Voilà, jusque-là tout va bien. Le héros qu'on incarne, c'est Booker DeWitt, c'est un DeWitt, je sais plus comment on dit.
On
est comme la petite chaîne. Enfin, bref. voilà. C'est un ancien détective privé qui a des problèmes d'argent.
Ah, ça.
ouais. Et on lui propose de se racheter en allant sur Columbia chercher une certaine Elisabeth. Et donc, il va là-bas à la recherche de cette jeune femme.
Il faut préciser que Columbia est une cité qui a fait sécession du reste du monde.
Ouais, qui est coupée en autarcie, quoi. Voilà. Et donc, que dire c'est un excellent jeu, franchement.
Excellent.
Superbe. C'est pas une suite directe de BioShock. On retrouve des petits éléments, enfin bref. Mais ça reprend beaucoup du système de jeu des deux précédents opus de la franchise. Et donc là, contrairement aux deux épisodes qui se passaient dans une cité sous-marine, là on est dans une cité flottante en 1912. Et là on est encore dans cette espèce d'élan utopique. Dans le premier, c'était on se coupe du monde aussi, puis on fait la société parfaite. Bah là, c'est pareil dans le 3, enfin dans Infinite.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi plein de thèmes sous-jacents, la question du pouvoir, il y a les sectes, il y a la pauvreté, il y a aussi
le racisme
qui est très très présent. D'ailleurs, il y a la scène où tu dois jeter une balle de...
Presque au début. Bah,
c'est la scène qui enclenche l'action, en fait. Bah, jouez-y, je vous laisserai voir.
Tu es confronté à un choix. Ouais.
Et je sais pas si le choix a vraiment une incidence sur ce que tu fais plus tard. Si, il a une incidence.
Pas tout à fait. Un petit peu sur un début, sur une partie du début de l'aventure.
Et pour ce qui est du gameplay, bah là, on a pas mal d'ennemis à combattre, souvent des soldats, il y a aussi des automates ou des handymen, des sortes.
Ça se passe souvent dans des espèces de morceaux de la ville qui sont des grandes arènes finalement.
Ouais, c'est assez morcelé au final.
Pour ce côté-là, il y a un côté assez...
À la fin, t'es quand même bien obligé de faire du gunfight de bourrin. Hein. Tu peux pas faire... T'es obligé de partir en mode bourrin.
Mais après, ça reste du gunfight classique de BioShock. Hein.
Bah, j'ai trouvé ça assez redondant là, sur la fin.
Comme pour les autres BioShock.
La dernière partie du jeu me...
Mais c'est plutôt sympa.
Ah, oui. Je m'emmerdais à la fin.
Les combats sont redondants, je suis d'accord, mais l'histoire te rattrape tellement tout.
Non, l'histoire, ouais, très bien, mais c'est le gameplay, tu vois, c'était trop redondant. Et j'étais là, bon, allez vite, faut que j'arrive à la fin parce que
Il y a l'histoire des rails sur lesquels tu montes, qui était une super idée, mais finalement, on l'exploite pas tant que ça.
Heureusement que t'as deux personnages qui te maintiennent toujours en haleine et à t'apporter des petites brides amusantes.
Voilà. L'histoire est juste hallucinante. C'est la première fois que t'as un sidekick dans un FPS qui est pas une planète.
Oui. Oh. Oui, c'est pas faux.
Sinon, rapidement, on retrouve le système de des plasmides. J'appelle ça les plasmides, mais pour le coup, c'est des toniques. C'est des petites boissons qui vous donnent des pouvoirs plutôt sympas. Les boules
de feu. Basé sur les éléments, souvent.
Électricité, possession de robots.
L'eau, le feu.
Possession des ennemis. Ouais. Les trucs sympas, c'est aussi de pouvoir faire des combos comme dans les deux premiers, lancer de l'eau sur un ennemi robotique, balancer de l'électricité, enfin tu peux lui faire des bons combos de dégâts. J'aime beaucoup le nuage de corbeau, ça c'est un de mes préférés.
Très très bien.
Ouais.
C'est vraiment une super idée. On est constamment suivi donc par le personnage que tu es censé sauver de la ville. Elisabeth, donc, qui se contente de trouver des munitions, de la vie, de l'argent. Bon, au final, t'es jamais en galère de munitions dans le jeu. Ni en galère de
plus. Oui, c'est aussi un des défauts. Par contre, il y a un truc qui se crée, et c'est la première fois que je vois ça dans un FPS ou même dans un jeu, c'est très rare, qu'il y a une relation qui se crée avec ce personnage, ouais. De l'empathie.
On s'attache beaucoup.
C'est un truc de fou. Ouais.
Mais au final, on n'a pas vraiment à s'en occuper parce qu'elle est invincible. Ça, c'est. Je sais pas, ça m'a un petit peu.
Et c'est pour ça qu'elle c'est pas une plaie.
Oui.
Ça m'a pas dérangé quand même. Mais bon, on la laisse faire sa vie. Et puis...
Après... Mais c'était un peu le seul moyen d'en faire quelqu'un de pas gênant, je pense, pour le gameplay.
Bon, après, c'est souvent des fois cette tendance qu'elle a pendant les combats à vouloir te lancer tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle trouve sous la main à la tronche. Bon.
Ouais, ça facilite un peu le truc en plus.
En fait, dans ce jeu, ce qu'il faut distinguer, c'est l'esthétique. D'un côté, parce que l'univers est vraiment super original, superbe.
Ah ouais, rentrer dedans.
Et d'autre côté, c'est l'histoire.
La DA est extraordinaire.
L'histoire qui est vraiment très travaillée. Et c'est même assez compliqué à s'y mettre. Hein.
Il y a quand même une énorme phase d'exposition au départ, d'ailleurs, qui peut rebuter certains, parce qu'il se passe un très long moment où tu fais rien. C'est la phase d'exposition du monde pour essayer de te faire entrer.
Ouais, je trouvais ça un poil long. Mais
un peu comme dans un film, quoi. Et c'était un poil long. Ouais.
Juste pour terminer, j'ai vu beaucoup de gens, en fait, j'ai vu beaucoup de gens critiquer le jeu. Et ils ont même vraiment bâché violemment le jeu. Quoi. Sur Twitter, j'ai vu des gens qui étaient vraiment en dégoût.
Il y a des gens, moi, de ce que j'ai entendu, j'en ai entendu certains, et je sais pourquoi, ils se plaignent en fait de la grosse différence entre le 1, le 2 et Infinite. Et il y a beaucoup de monde qui s'est plaint de ça.
C'est tout l'intérêt du
tout. Tout le monde voulait un BioShock 3 aussi dans Rapture. Il vaut mieux pas.
C'est peut-être l'erreur de faire un BioShock 2 dans la continuité du 1.
Mais le BioShock 2 n'est pas fait par Kev Levine. Hein.
Ouais, voilà.
Le créateur de BioShock 1 n'a pas à peine participé au 2 parce qu'il voulait pas le faire, il voulait pas faire une suite, pour lui c'était terminé l'histoire dans Rapture. Mais bon, ils ont exploité le filon.
Surexploité ?
Il est d'ailleurs pas mauvais le deuxième, mais il y a aucune portée scénaristique intéressante et compagnie, quoi. C'est un jeu d'action FPS sympa, quoi.
C'est un bon jeu d'aventure.
Avec un petit bout de scénar.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et il y a aussi beaucoup de critiques sur le scénario en lui-même. Les gens ont dit qu'il était trop compliqué. Moi, justement,
à la fin, tu dois bien réfléchir.
C'est génial.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ça t'ouvre des portes qui ne se referment pas, donc c'est à toi de faire ta fin quelque part. C'est excellent.
Ouais. J'ai aussi. Une fois que t'as compris, franchement, c'est. Ouais, il y a une gymnastique à faire, mais c'est.
C'est un peu l'intérêt d'un Inception, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand tu sors du film, t'as quelque chose à dire à quelqu'un qui l'a déjà fini aussi.
Ouais, c'est ça.
Quand tu sors du
jeu, les différentes lectures.
Voilà. T'as plusieurs lectures et tu peux en discuter avec des gens. Comme tu pourrais le faire avec un Inception.
C'est un très très bon jeu avec une histoire vraiment poussée et garnie, je trouve. Quoi.
Sinon, juste sur le gameplay, il y avait des critiques comme quoi ça apportait. Rien de nouveau, vraiment nouveau. Bon, je suis assez d'accord, mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé.
Est-ce qu'on joue pas à BioShock pour avoir ce gameplay-là aussi ?
Bah, si. Bah, en même temps, le jeu est super confortable à jouer, je trouve.
Ah ouais, moi je me suis régalé, je l'ai fait en. J'ai dû le lancer deux ou trois fois seulement, c'est-à-dire que je l'ai fait d'affilée, quoi.
J'encourage à y jouer en tout cas. Bah, de toute façon, même avec les soldes de Noël sur Steam, je pense qu'on peut l'avoir pour pas très cher.
Oui.
Pour 10 euros.
Une quinzaine d'euros. Donc
autant le faire. Et on peut même avoir les 3 pour 20 euros ou 30 euros, je sais pas.
J'ai refait récemment le 1 et le 2, et même si le 1 a pris un petit coup de vieux, à jouer c'est toujours aussi extraordinaire.
Et donc, j'ai fini. Donc pour moi, c'est BioShock et No Pain No Gain. Oh putain, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Quoi. C'est horrible.
À Michael Bay.
Ah ouais, à Michael Bay en top de l'année. Enfin bref. On va passer à Loli.
Oui, c'est moi.
Et j'espère que tu vas comprendre ce jingle. Alors, de qui est la chanson ?
Je sais plus le nom. Je l'ai là, mais voilà.
C'est Peter Gabriel.
C'est sur le bout de la langue. Steam de Peter Gabriel.
C'est fait. Non, ça sortira pas.
Le titre, c'est Steam.
Ouais, c'est ça, c'est Steam.
Je crois que c'est Sledgehammer.
Donc.
Alors.
Écoutez, moi, je vais vous parler d'une petite rétrospective, en fait, de ce qui s'est passé dans l'univers de Steam et de Valve en 2013, et d'un petit film qui s'appelle Prisoners. Steam, on va dire que je suis un fanboy parce que je ne parle que de ça. Mais le problème, le fait est quand même que dernièrement, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et très récemment, il s'est passé trois événements énormes qui sont les Steam Machines, le Steam Controller et le Steam OS. À savoir donc une, entre guillemets...
Ça fait un peu Batman, ton truc.
Oui, voilà, c'est leur univers, en fait. Ils ont créé leur écosystème à part entière. Maintenant, ils ont même du hardware. Donc Steam, depuis maintenant plusieurs années, pour ne pas dire une dizaine d'années quasiment. C'est un magnifique, ou pas pour certains d'ailleurs, hein, magnifique univers, une plateforme en fait d'achat de jeux en ligne. Tout le monde connaît, je pense, maintenant quand même, avec le temps.
Ouais, jamais entendu parler.
Après qu'on soit adepte ou pas.
On a un anti-Steam dans l'équipe.
Mais dans un sens, je comprends son point de vue. Oui. Donc,
pas moi.
Toujours est-il que Steam, bon voilà, plus rien n'est à présenter maintenant avec Steam, hein, tout le monde connaît. Sauf qu'en 2013, Steam a dit, bah, écoutez, vous nous connaissez, bah, regardez, on va faire quelque chose de nouveau. Ils ont décidé donc de sortir des machines à intégrer dans votre salon, qui est un simili PC, voire même un PC complètement d'ailleurs, pour certaines versions.
Ouais,
voilà, qui aura pour intérêt en fait de tourner sur leur SteamOS, qui est une version de Linux customisée pour afficher directement Big Picture, qui est en fait un système qu'ils avaient mis en place il y a maintenant, je pense, un an et demi, peut-être deux ans, je sais plus trop, qui est en fait une interface pour pouvoir contrôler Steam à la manette, tout simplement, et sur un grand écran, ce qui rend le truc beaucoup plus confortable, effectivement. Donc ils ont adapté leur plateforme à un OS complètement, donc c'est devenu SteamOS, qui a un Debian bidouillé. Ils ont sorti aussi les Steam Machines en parallèle qui font tourner donc le SteamOS, qui permettent de jouer aux jeux développés pour Linux, du coup sur Steam. Et il y en a de plus en plus, pas beaucoup pour l'instant, mais il y en a de plus en plus. Avec la petite fonctionnalité aussi apparemment de stream. Alors, je demande à voir, pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup de retours parce que les premières Steam Machines sont distribuées en gros depuis le début du mois.
Quand tu dis de stream, c'est de faire du cloud gaming,
exactement.
D'accord.
Et donc, il faut savoir que depuis, en gros, on va dire le 5-6 décembre, on voit apparaître un peu partout sur Internet les premières Steam Machines qui ont été livrées. Et ils ont fait les choses vraiment bien. Parce que c'est livré dans une espèce de grosse malle en bois. Et c'est franchement sympa.
Oui, dans du béton.
Non, mais ça fait le truc un peu roots, c'est genre proto numéro 1, gros coup de tampon noir sur la caisse en bois.
Oui, mais justement, est-ce qu'ils vont garder ça que pour les protos?
À mon avis, c'est que pour les protos, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils en sont pour l'instant qu'à la phase de prototype. Mais bon, là n'est pas le débat, j'ai déjà fait un dossier beaucoup plus complet là-dessus.
Que vous pouvez retrouver
dans mon épisode hors série, mais bon, ça
parlera le débat.
Donc Steam, donc on a dit SteamOS, Steam Controller, qui est un... Le Steam Controller, c'est pour moi le truc le plus attirant en ce moment. Le SteamOS, le SteamOS non, et puis la Steam Machine moyen, mais bon, les concepts sont assez intéressants. Ils créent un écosystème en fait autour d'une plateforme qui est maintenant bien ancrée dans l'univers du jeu PC. Il est très difficile maintenant d'acheter un jeu qui n'est pas compatible Steam en fait, quand on se rend compte.
C'est même très difficile parfois derrière des jeux.
C'est ça.
Hors Steam.
Donc Steam en 2013, c'est quoi? Bah écoutez, c'est simple, c'est trois grosses innovations où ils se sont dit, bah on est déjà bien là, mais bah en fait on en fait plus. Il est temps.
Donc on vient de parler des machines là, mais.
Le contrôleur en fait, c'est un pad, genre pad de Xbox, sauf qu'à la place d'avoir des sticks analogiques et des croix directionnelles, et ben on a deux gros pavés tactiles.
Cliquables.
Et cliquable, qui plus est, tout à fait. Et ça a l'air d'être assez impressionnant, des petites vidéos qu'on a pu voir lors des présentations. Alors après...
On a vu jouer à des FPS, ouais. Et ça avait l'air beaucoup plus pratique.
Et c'est très réactif, parce qu'ils ont fait une démo de Portal, qui a besoin quand même de précision, et c'est assez intéressant. Bon, après, toujours est-il, c'est vrai qu'on fait dire ce qu'on veut à une vidéo. Mais bon.
Ça donne envie de tester quand même.
Voilà, exactement, c'est très attirant.
C'est ça.
Donc, une manette, une machine, un OS.
Et surtout, faut pas oublier que la manette sera pas forcément compatible avec
SteamOS. Ah non, la manette sera... C'est une manette PC, tout simplement.
Voilà, c'est ça.
Faut oublier non plus que la Steam Machine, c'est un PC. Hein. Quand on voit les configs qu'il y a dedans, c'est même plutôt un beau PC. Non. Concrètement...
Alors, troisième...
Troisième innovation, bah, c'était l'OS. Hein, donc, c'est un OS, une machine... Et une manette.
OS disponible.
Et l'OS est disponible, ça y est. Hein.
Oui, il est pas open source.
Il est open source. Et le problème, apparemment, c'est que ça a l'air pour l'instant d'être un petit peu la mort pour l'installer. il faut le bidouiller, il faut faire un tas de trucs. Moi, j'ai vu une vidéo sur le site de Corben où quelqu'un l'avait installé. Apparemment, c'est quand même assez insupportable.
Ouais, c'est une bêta.
Ouais, mais enfin, il faut oublier
qu'on... En fait, il faut passer par le Debian, rebooter en fait la machine pour la booter en ligne de commande, installer en ligne de commande, revenir dedans, réactiver des fonctions, revenir, refaire des lignes de commande. C'est genre pour l'installer, tu mets une heure et demie.
C'est...
Pour l'instant, c'est pas propre. Mais c'est qu'une bêta. Hein, donc...
ouais, bah avant, on installait Linux.
Avant. On n'a plus l'habitude.
Nous, les vieux.
C'est ça. Non, voilà.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, c'était les trois petites... les petits renouveaux, en fait, qu'a voulu faire Steam.
Hein.
Et c'est assez prometteur dans l'ensemble. Peut-être une petite innovation dans l'air. Mais bon. Voilà, voilà. Et bien, pour la suite, je vais vous parler d'un film que j'ai vu, du coup, très récemment, parce qu'il est sorti le 9 octobre 2013 en France. Et ce film s'appelle Prisoners. Donc, c'est un thriller américain avec Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, entre autres, qui sont les deux acteurs principaux. Et alors, je vais vous faire le pitch, quand même, un petit peu vite fait. Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite à un témoignage de Keller, le père d'Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté, mais est relâché quelques jours plus tard, faute de preuves, entraînant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaye de trouver des indices et pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable. Les jours passent et les chances de retrouver les fillettes s'amenuisent.
C'est un thriller.
C'est un thriller qui est très 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 prenant parce que dès les premières minutes de film, on est tout de suite emmené dans la machine.
Et t'as le stress
et la pression
encore.
Et la pression de la première minute.
On t'avait dit de pas parler de bière.
Le stress de la première minute à la dernière minute de film, on l'a du début à la fin vraiment. Les personnages, tous sans aucune exception, que ce soit le père, le policier, le premier suspect et les autres que l'on découvre au fur et à mesure dans l'histoire, sont tous excessivement bien joués.
Et
Hugh Jackman dedans joue, comme bien souvent en fait, très bien. Jack Gyllenhaal, son rôle m'a fait penser au rôle qu'il a plus ou moins dans le Zodiac.
Le flic, il y a une ambiance assez proche.
Moi, c'est un film qui m'a donné la même sensation. Qui m'a vraiment beaucoup marqué et je l'ai vu donc au cinéma et on voit pas le temps passer. C'est vraiment un film qui est très 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 prenant, très intéressant,
complètement passé à côté.
Ah, et pourtant, mais le problème c'est que c'est pas un film où il y a eu beaucoup de pubs de fait dessus.
Et je pense pas qu'il ait eu un gros box-office.
Il a quand même eu un 1 200 000 entrées pour le box-office français.
Oh, en France,
c'est plutôt correct.
C'est pas mal, ouais.
Honorable.
Pour un budget de 46 millions de dollars. Donc c'est pas...
20 millions de dollars de plus.
Oui, mais c'est pas, tu vois, donc c'est pas un gros budget au final, quand tu regardes.
Non, pas du tout.
Et non, en plus, il y a quand même des grosses têtes d'affiche dedans, parce que bon, on a Hugh Jackman, on a Jack Gyllenhaal, on a Terrence Howard, qui joue donc le père de la deuxième fille. Alors, Terrence Howard, alors de tête comme ça, je sais plus. Alors, attendez, je vais voir vite fait. Il a joué dans Le Majordome, par exemple.
Ouais.
Il a joué dans quand même pas mal de trucs assez connus. Attendez, je recherche vite fait. Il a joué dans Sur la route. Il a joué dans Los Angeles Police Judiciaire dans la saison 1.
Ouh.
Non, il a joué aussi dans Iron Man. C'est lui qui jouait Rod.
Ah oui, dans le premier ?
Dans le premier, Iron Man. Avant qu'il change de tête.
Ouais.
Ok.
Le copain de,
voilà,
d'Iron Man.
Non, mais bon, voilà. C'est quand même un acteur qui a fait pas mal de choses. Donc, personnellement...
C'est un réalisateur canadien.
Oui, de toute façon, au nom qu'il a, c'est Denis Villeneuve. Donc, on se doute que c'est pas un Américain. Et il a que 46 ans, d'ailleurs. Et... Ouais. très honnêtement, c'est surprenant.
Ouais.
C'est le film qui le tient en haleine. Et ouais, j'avais envie de vous raconter l'histoire, mais ça serait tellement dommage de spoiler. Il faut le voir.
Ah ouais, c'est...
Non, non, très sincèrement, ça serait très 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 dommage de parler trop de ce film.
Apparemment, le succès du réalisateur avant, c'était Incendie, mais je ne l'ai pas vu.
C'est ce que j'ai aperçu.
Mais c'était un de ses succès.
Il a été apparemment énormément récompensé pour ce film. Et à l'origine, pour le projet, il était dit qu'il y aurait peut-être eu Mark Wahlberg et qui aurait dû jouer dedans.
Ah, le mec avec un charisme dandy, c'est ça. C'est ça.
Et Christian Bale, voilà. Bale.
C'est ça, le...
Et ça a été proposé à Bryan Singer pour la réalisation. Et après, il y a eu Michael Fassbender et Leonardo DiCaprio aussi de mentionner. Et finalement, ça a été Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal.
Ah, mais que des grosses têtes d'affiche.
Puis alors, moi, je trouve que Jack Gyllenhaal, dans ce film, joue...
Ah, il est très très bon.
Avec une froideur. Ouais. C'est tellement bon.
Ouais.
Non, c'est vraiment un grand, grand acteur. Ouais. Moi, je le classe en vraiment dans les grands, grands acteurs. Et j'oserais dire que je le place, ce film-là, dans mon top 5 des films de 2013.
Oh là 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 là.
Parce que c'est vraiment un film qui m'a marqué. Ouais. Vraiment beaucoup.
Faudra revenir faire un top 5 des films de 2013 de chacun.
C'est compliqué. Et ce serait totalement partiel en plus.
Et je suis vraiment d'accord sur ce film-là. Il est, j'y suis allé comme ça, là, toujours, dans mes...
La fleur au fusil, bonjour, c'est moi qui
là. Non, mais dans la même semaine de déplacement
dans un IMAX.
Et je connaissais pas, j'avais rien entendu parler de ce film, et je suis rentré dans la salle, j'ai les 10 premières minutes, j'ai fait « Waouh !» Et puis alors, quand t'es papa d'une gonzesse de 2 ans...
Ça doit être d'autant plus poignant.
Tu fais « Waouh, je veux pas que ça m'arrive !» et ouais, tu restes, et alors... tu restes le cul sur ta chaise tout le film, t'es là, non.
Et puis l'ambiance, la photo super,
ah ouais, non,
moine,
l'ambiance est
énorme.
Et tout. C'est la réalisation, ouais. Et la photo. Est
la réalisation,
énorme.
Enfin la photo quoi.
Et alors le truc c'est que dans ce personnage là que joue Hugh Jackman, qui est le père un peu basique américain survivaliste qui plus est. Qui rajoute vraiment beaucoup au personnage, je trouve d'ailleurs. Tu te dis, mais est-ce que j'aurais pas réagi exactement de la même façon si ça m'était arrivé?
Ah si, carrément.
Puis t'as l'impression que c'est le mec survivaliste qui dit,
sauf ça,
il peut m'arriver n'importe quoi, j'ai tout prévu. Ça, il l'a pas prévu.
et même jusqu'à la dernière minute de film, même quand il y a plus d'image de film, t'as toujours la pression. C'est vraiment.
Une pour
c'est
moi aussi.
Vraiment très 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 impressionnant. Donc un film que je recommande vraiment très chaudement.
Ok, encore un truc à regarder. Tout à fait.
Ben voilà.
Voilà voilà.
Donc pour toi, Prisoners et
surtout Steam. Prisoners, plus que Steam d'ailleurs.
Nom Steam aussi. Très bien. On a fait le tour. On a presque une heure pile poil. C'est cool. On va
pouvoir presque passer... une heure pile poil, c'est bizarre comme phrase.
Presque une heure pile poil, ouais.
Ouais, c'est presque une heure ou c'est une heure, faut savoir.
Mais... On va voir. Allez, je lance la conclusion. Oh, l'autre, comment il chie. Bon, on est à presque une heure pile poil, 23 minutes.
Ça veut rien dire.
Bon, on va rapide. Alors là, ça va être le moment où on parle tous de ce qu'on fait, le moment hyper malsain. On dit ouais, j'adore.
On y parle, on parle tous, on le fait tous en même temps.
Non, mais vous allez le faire très rapidement. On va commencer par Dizzy Bamboo Gangsta Paradise.
Of the Blade. Eh ben, je suis en représentation au Zénith de Paris.
Au Zénith.
Avec mon pote Coolio.
Alors,
big up.
Qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que je fais? Je fais un petit podcast qui s'appelle Les Projets du Web avec mon collègue Not Kirby, Nicolas.
Les Projets du Web, ouais,
c'est ça. Ou dans le dernier épisode, le deuxième, enfin le premier, parce que c'est le deuxième, mais bon, le premier c'est un pilote, et à chaque fois on a du mal, mais bon, voilà. Dans l'épisode...
Oh, j'ai mal la tête.
Donc dans l'épisode 1, on a eu la chance d'avoir un... Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Allez, ça commence, allez.
Oh, un extraordinaire. Excellent, gribouilleur.
Qui fait un magnifique co-coréage.
Il est quand même co-producteur, co-réalisateur, co-auteur et co-présentateur de Hors Cadre, qui est un magnifique podcept.
Allez, c'est parti. Il va y avoir la coupe, hein, moi je vous le dis.
Donc voilà.
On dirait de la politique, là.
Un podcast, les projets du web, où on essaye de donner les news sur les différents projets qui naissent sur Internet. Il y a aussi il y a du Kickstarter, du Ulule et tout le bazar, mais il y a aussi des cahiers de coloriage et autre chose.
Vous allez parler de Kung Fury la prochaine fois.
Oui, sans doute, ouais.
C'est cool.
C'est déjà noté, j'ai voulu aller mettre dans les notes de, du prochain épisode, et puis là, j'ai vu que Nico a marqué le truc. Donc...
Quelle surprise.
Musique.
Bon, ben on va faire simple Twitter. Vous savez, ce réseau social, là...
Avec un petit oiseau bleu.
Ouais, mais tu peux dire voilà. Ton
at. Non, j'allais le faire, donc
c'est... C'est quoi
ton at SoundCloud.
Pas ton blaze.
Ouais, on peut mettre SoundCloud. SoundCloud.
Oui, mais ça, voilà. Non.
Ça, mais ça, c'est... oui.
Ça va rester, tant pis. Alors, Loli, ouais.
Et bah moi, toi. On peut me retrouver sur Twitter, @theloli76. On peut me retrouver aussi sur le bidule... De temps en temps, quand je pense à écrire, et puis, et puis quand je fais un podcast qui s'appelle Indie Loli, quand j'ai le temps et quand j'y pense.
Et bientôt, et bientôt, et bientôt.
Et puis bientôt, un autre podcast, mais vous en saurez plus en 2014.
Ah, c'est bien.
C'est rageant, hein.
Alors, Titours.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir?
Alors, ce soir, je vais vous parler, oh, je ne sais pas, qu'est-ce
de
que
toi.
Vous
voulez. On veut savoir où te retrouver.
Moi, je suis pas compliqué. Vous me dites.
Parle-nous de toi d'abord.
Où c'est Bah moi, il y a des peintures à refaire chez moi.
Tu fais la bouffe?
Oui,
tu fais la
je fais tout.
Des schnitzels.
Des schnitzels.
Oh là là. Quelle introduction.
Des schnitzels. Ouh, de justesse.
Voilà, petit ours. On te retrouve.
Je vous tiens. Oui, c'est ça. Moi. Alors, quand je fais pas du parapente, je suis sur Twitter.
Ouais.
@titours. TIT0URS.
Voilà.
Sur le bidule des fois et dans bidule certains podcasts rôle. Avec certaines personnes quand je suis invité.
Et on va terminer par celui qui a fait un magnifique carnet de coloriage Barbie, le rêve d'une danseuse étoile.
C'est ça ou pas?
Randall Flagg.
Randall Flagg avec un underscore
2 et
2G. À la fin. Et vous pouvez me retrouver sur gribouillon.fr et voilà. Et sur le bidule.org et sur hors-cadre.
Podcast. Sympa, Orca.
Pas mal, ouais, effectivement.
très bien. Bon, bah.
Moi. Et j'ai fait court. Hein. Et toi, Pierre-Antoine, entre trop vous.
Je suis vraiment
oui.
Envie de le faire.
Il n'y a pas le choix. Bah
oui.
C'est tout le monde ou
ouais.
C'est personne.
Alors, vous me retrouvez sur Twitter, @Pierre-Antoine. Vous me retrouvez sur. Je sais plus. Oh là là. Bon, on passe à la suite. Alors, sur.
Non, non,
sur MySpace.
Bon, sur @Orcadre PDC. Voilà, un magnifique podcast avec quelqu'un de très bien. Je ne sais pas qui c'est.
Il n'est pas là ce soir d'ailleurs.
Ouais, merci, c'est gentil.
Sur un autre truc qui arrive prochainement. Moi aussi je tease.
Ouh, tease.
Ouais, moi aussi je tease.
Toi aussi?
Ouais, allez.
Et wow. C'est
allez,
la fin de l'émission. Je vais quand même lancer le générique de fin. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur @les_éclaireurs dans www. lesexplorerpodcast.wordpress.com, j'ai toujours du mal avec ça. C'est pas mal.
Attention,
sinon,
c'est pas les spouts,
on se retrouve dans deux semaines pour une émission bien plus classique, celle-là. C'est fini 2013. 2014, on va voir ce que ça veut dire. Et d'ici là, on se retrouve dans deux semaines.
Ciao.
Salut. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous.